des dispositions domestiques, contemplant, palpant déjà son bonheur. Et pour le réaliser, il aurait fallu seulement que le chien du fusil se levât. On pouvait le pousser du bout de l'orteil, le coup partirait, ce serait un hasard, rien de plus. Frédéric s'étendit sur cette idée, comme un dramaturge qui compose. Tout à coup, il lui sembla qu'elle n'était pas loin de se résoudre en action, et qu'il fallait y contribuer, qu'il en avait envie. Alors, une grande peur le saisit. Au milieu de cette angoisse, il éprouvait un plaisir et s'y enfonçait de plus en plus, sentant avec effroi ses scrupules disparaître. Dans la fureur de sa rêverie, le reste du monde s'effaçait, et il n'avait conscience de lui-même que par un intolérable serrement à la poitrine. « Prenons-nous le vin blanc, » dit le purateur qui s'éveillait. Arnoux sauta par terre, et le vin blanc étant pris, voulut monter la faction de Frédéric. Puis il l'emmena déjeuner rue de Chartres, chez Parly, et comme il avait besoin de se refaire, il se commanda deux plats de viande, un homard, une omelette au rhum, une salade, etc., le tout arrosé d'un Sauternes 1819 avec un Romanée 42, sans compter le champagne au dessert et les liqueurs. Frédéric ne le contraria nullement. Il était gêné, comme si l'autre avait pu découvrir sur son visage les traces de sa pensée. Les deux coudes au bord de la table et penchés très bas, Arnoux, en le fatiguant de son regard, lui confiait ses imaginations. Il avait envie de prendre à ferme tous les remblais de la ligne du Nord pour y semer des pommes de terre, ou bien d'organiser sur les boulevards une cavalcade monstre où les célébrités de l'époque figureraient. Il louerait toutes les fenêtres, ce qui, à raison de 3 francs, en moyenne, produirait un joli bénéfice. Bref, il rêvait un grand coup de fortune par un accaparement. Il était moral, cependant, blâmait les excès, l'inconduite, parlait de son pauvre père, et tous les soirs, disait-il, faisait son examen de conscience avant d'offrir son âme à Dieu. Un peu de curaçao, hein, comme vous voudrez. Quant à la République, les choses s'arrangeraient. Enfin, il se trouvait l'homme le plus heureux de la terre, et, s'oubliant, il vanta les qualités de Rosanette, la compara même à sa femme. C'était bien autre chose. On n'imaginait pas d'aussi belles cuisses. « À votre santé !» Frédéric trinqua. Il avait, par complaisance, un peu trop bu. D'ailleurs, le grand soleil l'éblouissait, et quand ils remontèrent ensemble la rue Vivienne, leurs épaulettes se touchaient fraternellement. Rentré chez lui, Frédéric dormit jusqu'à 7 heures. Ensuite, il s'en alla chez la maréchale. Elle était sortie avec quelqu'un. Avec Arnoux, peut-être. Ne sachant que faire, il continua sa promenade sur le boulevard, mais ne put dépasser la porte Saint-Martin, tant il y avait de monde. La misère abandonnait à eux-mêmes un nombre considérable d'ouvriers. Et ils venaient là, tous les soirs, se passer en revue sans doute, et attendre un signal. Malgré la loi contre les attroupements, ces clubs du désespoir augmentaient d'une manière effrayante, et beaucoup de bourgeois s'y rendaient quotidiennement, par bravade, par mode. Tout à coup, Frédéric aperçut à 3 pas de distance M. Dambreuse avec Martinon. Il tourna la tête, car M. Dambreuse s'étant fait nommer représentant, il lui gardait rancune, mais le capitaliste l'arrêta. « Un mot, cher monsieur, j'ai des explications à vous fournir. Je n'en demande pas. De grâce, écoutez-moi. » Ce n'était nullement sa faute. On l'avait prié, contraint en quelque sorte. Martinon, tout de suite, appuya ses paroles. Des Nogentais en députation s'étaient présentés chez lui. D'ailleurs, j'ai cru être libre du moment. Une poussée de monde sur le trottoir força M. Dambreuse à s'écarter. Une minute après, il reparut en disant à Martinon « C'est un vrai service, cela. Vous n'aurez pas à vous repentir. » Tous les trois s'adossèrent contre une boutique afin de causer plus à l'aise. On criait de temps en temps « Vive Napoléon ! Vive Barbès ! À bas Marie !» La foule innombrable parlait très haut, et toutes ces voix, répercutées par les maisons, faisaient comme le bruit continuel des vagues dans un port. À de certains moments, elles se taisaient. Alors, la Marseillaise s'élevait. Sous les portes cochères, des hommes d'allure mystérieuse proposaient des canadars. Quelquefois, deux individus, passant l'un devant l'autre, clignaient de l'œil et s'éloignaient prestement. Des groupes de badauds occupaient les trottoirs. Une multitude compacte s'agitait sur le pavé. Des bandes entières d'agents de police, sortant des ruelles, y disparaissaient à peine entrées. De petits drapeaux rouges, çà et là, semblaient des flammes. Les cochers, du haut de leurs sièges, faisait de grands gestes, puis s'en retournait. C'était un mouvement, un spectacle des plus drôles.
Comme tout cela, dit Martineau, aurait amusé Mademoiselle Cécile.
Ma femme, vous savez bien, n'aime pas que ma nièce vienne avec nous, reprit en souriant M. d'Ambreuse.
On ne l'aurait pas reconnue. Depuis 3 mois, il criait « Vive la République !» Et même, il avait voté le bannissement des d'Orléans.
Mais les concessions devaient finir. Il se montrait furieux jusqu'à porter un casse-tête dans sa poche.
Martineau aussi en avait un. La magistrature n'étant plus inamovible, il s'était retiré du parquet, si bien qu'il dépassait en violence M. d'Ambreuse.
Le banquier haïssait particulièrement Lamartine, pour avoir soutenu Ledru-Rollin, et avec lui Pierre Leroux, Proudhon, considérant, l'amenait, tous les cerveaux brûlés, tous les socialistes.
Car enfin, que valent-ils? On a supprimé l'octroi sur la viande et la contrainte par corps. Maintenant, on étudie le projet d'une banque hypothécaire. L'autre jour, c'était une banque nationale. Et voilà 5 millions au budget pour les ouvriers. Mais heureusement, c'est fini, grâce à M. de Falloux. Bon voyage, qu'il s'en aille.
En effet, ne sachant comment nourrir les 130 000 hommes des ateliers nationaux, le ministre des Travaux publics avait, ce jour-là même, signé un arrêté qui invitait tous les citoyens entre 18 et 20 ans à prendre du service comme soldats ou bien à partir vers les provinces pour y remuer la terre. Cette alternative les indigna, persuadés qu'on voulait détruire la République. L'existence loin de la capitale les affligeait comme un exil. Ils se voyaient mourant par les fièvres dans des régions farouches. Pour beaucoup d'ailleurs, accoutumés à des travaux délicats, l'agriculture semblait un avilissement. C'était un leurre, enfin, une dérision, le déni formel de toutes les promesses. S'il résistait, on emploierait la force. Il n'en doutait pas et se disposait à la prévenir. Vers 9 heures, les attroupements formés à la Bastille et au Châtelet refluèrent sur le boulevard. De la porte Saint-Denis à la porte Saint-Martin, cela ne faisait plus qu'un grouillement énorme, une seule masse d'un bleu sombre, presque noir. Les hommes que l'on entrevoyait avaient tous les prunelles ardentes, le teint pâle, des figures amaigries par la faim, exaltées par l'injustice. Cependant, des nuages s'amoncelaient. Le ciel orageux chauffant l'électricité de la multitude, elle tourbillonnait sur elle-même, indécise, avec un large balancement de houle. Et l'on sentait dans ses profondeurs une force incalculable, et comme l'énergie d'un élément. Puis, tous se mirent à chanter « Des lampions! Des lampions !» Plusieurs fenêtres ne s'éclairaient pas. Des cailloux furent lancés dans leurs carreaux. M. d'Ambreuse jugea prudent de s'en aller. Les deux